Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1959-1960, l'immédiat. Aujourd'hui, l'immédiat, le retour. Cours numéro 2, enregistré le 14 décembre 1959.
Nous nous interrogions la semaine dernière sur certaines difficultés inhérentes à notre problème et qui étaient, que nous avions déjà rencontrées dans les années précédentes en parlant de la mort. Non pas, disions-nous, que la mort fut elle-même immédiate, ou plutôt, nous ajoutions qu'elle elle est à la fois immédiate et médiate, enfin, prochaine et lointaine, selon le point de vue où l'on se place. Car de même que l'ergo sum du cogito, n'est-ce pas, cogito ergo sum, l'ergo sum est à la fois conclu d'un raisonnement quasi instantané et en même temps compris intuitivement dans le cogito. De la même manière, la mort propre est à la fois la conclusion, si on veut, lorsqu'il s'agit de la mort de ma propre mort, est à la fois la conclusion d'un syllogisme et en même temps le résultat d'une inspection instantanée. D'une part, la conclusion d'un syllogisme qui serait l'application à mon cas particulier d'une loi générale, qui est la loi de mortalité, et qui est appliquée à mon cas par l'intermédiaire du concept « homme », et en même temps, elle est quelque chose dont j'ai l'intuition, et qui est donc à la fois évidente et inévidente, n'est-ce pas ? Et inévidente quand il s'agit de la mienne, puisqu'il faut que je la conclue, et évidente en un autre sens, parce que toute exception à cette règle est invraisemblable, et que, d'une manière générale, mon cas est un cas à cet égard qui est à la fois privilégié et qui est un cas qui est le cas de tout le monde. Donc, ceci était une appendice à la leçon précédente, quelque chose que j'aurais dû déjà dire et qui explique la raison pour laquelle, bien qu'il s'agisse d'un objet lointain et dont nous montrions les années précédentes, qu'il est toujours au futur, il est quand même le résultat d'une expérience à sa manière immédiate. Et si j'insiste encore pendant quelques instants là-dessus, c'est non seulement parce que nous y avons consacré de nombreuses séances, mais encore parce que cette réflexion est peut-être de nature à nous expliquer certains aspects d'une connaissance immédiate, c'est-à-dire, comme nous le disions à la fin de cette dernière séance, quelque chose comme une réminiscence, une chose que l'on reconnaît sans l'avoir jamais vue, telle que l'est l'anamnésis platonicienne. Une chose inconnue avec laquelle nous avons pourtant une familiarité et une consanguinité inexplicable et dans laquelle nous reconnaissons instantanément notre destin. Eh bien, nous verrons que cela est en grande partie un caractère de la connaissance de l'immédiat. En tout cas, et c'était le point qui nous occupait, c'est aussi ce qui rendait si piétinante la méditation de la mort et qui s'opposait à un progrès dialectique de pensée, à un approfondissement par la pensée de la mort et qui rendait toute pensée de la mort étrangement stationnaire. Le même danger nous guette donc à présent. C'est le danger qu'une méditation sur l'immédiat soit une méditation tout à fait stationnaire et qui nous réduit à tourner sur un pied, comme des derviches, à tourner et à sur place, sans avancer, ou encore à bégayer. Donc ici, plus que jamais, comme l'indique le mot même d'immédiat, nous allons être au bout dès le commencement, puisque c'est à quoi l'immédiat nous invite. C'est le coup de théâtre de l'immédiateté, qui est que l'alpha et l'oméga coïncident au même point. Ce qui est le miracle et le coup de théâtre. Comme nous, avoir fini avant d'avoir commencé. Commencer et finir dans le même instant, comme par une féerie. Et c'est d'ailleurs la définition de l'instant que d'apparaître et disparaître à la fois. S'il s'agissait de médiation, il n'y aurait pas à s'étonner qu'une méditation sur la médiation elle-même prenne du temps, ce qui est soi-même enchaîné dans le temps. Un objet comme la médiation qui est naturellement enchaîné dans le temps est aussi, quand on réfléchit sur lui, l'objet d'une connaissance temporelle qui s'échelonne dans le temps. Il n'est donc pas étonnant qu'une réflexion sur la méditation soit elle-même une réflexion qui emprunte, qui prenne du temps. Et pour la même raison, il n'est pas moins étonnant qu'une réflexion sur l'immédiat, si tant est que ce puisse être une réflexion, soit elle-même un caractère immédiat. n'occupe aucune épaisseur de durée, n'occupe un zéro d'intervalle, puisque ici, les intermédiaires sont abolis et que les relations s'annulent. Toutes les relations s'annulent dans cette limite de la proximité qu'est la coïncidence, car à la limite de la proximité, il y a la coïncidence pure et simple, la coïncidence, l'identification avec mon être. Ici donc, semble-t-il, il n'y a rien à dire, mais c'est que peut-être il y a tout à suggérer. La dernière fois, nous parlions d'un objet dans lequel il y avait quelque chose à dire à l'infini, et maintenant, précisément parce qu'il n'y a rien à dire, peut-être qu'il y a tout à suggérer, et que l'immédiat fait ainsi l'objet d'une connaissance paradoxale, un peu acrobatique, et dont l'objet elle-même paraît être une gageure, mais qui peut tout de même faire l'objet d'une réflexion philosophique, et même de la philosophie par excellence. Seulement, comme il y a un danger contre lequel il faut se garder, qui est, nous guette à tout instant, c'est que comme on ne discourt véritablement, on ne peut discourir véritablement que sur le média ou sur l'enchaînement, ou ce qui comprend des moyens termes, nous serons tentés à tout moment d'interpréter l'immédiat à partir du média. Comme ceux qui, par exemple, au XIXe siècle notamment, voulaient expliquer l'intuition comme un jugement instantané ou comme un raisonnement très rapide dans lequel certains intermédiaires seraient escamotés, comme par exemple un antimème. Ce que en rhétorique ou en logique, on appelle un antimème n'est nullement une intuition. Un antimème est un raisonnement dans lequel, pour aller vite, on a sauté la majeure ou la mineure, n'est-ce pas ? Et il manque quelque chose. Mais il manque quelque chose, en somme, toute la conversation et le bavardage quotidien est fait en ce sens d'antimème, c'est-à-dire de raisonnements incomplets dans lesquels certains jugements sont escamotés ou passés sous silence. Ce n'est donc pas en ce sens que l'intuition est immédiate. Et en général, l'immédiat n'est pas immédiat en ceci qu'il serait une médiation très rapide, une médiation brève, comme un intervalle très court. Pas plus qu'en général, l'instant n'est un intervalle comprimé jusqu'à l'extrême limite, à partir de laquelle presque rien deviendrait rien du tout. L'instant est sui generis. Un événement qui est de la nature de l'instant n'est pas une continuation qui est réduite à quelques secondes, car une continuation de quelques secondes est encore une continuation. Un intervalle très court, un intervalle très bref est encore un intervalle et ne ressemble en rien à l'instant. Donc l'instant est d'une autre nature que l'intervalle, mais il n'est pas un intervalle très court. Et de la même manière, la continuation est d'une autre nature que le commencement. Elle n'est point le commencement n'est point une continuation réduite elle-même à une extrême brièveté. Donc nous devons nous garder d'interprétations analogiques à partir du discours, à partir de l'intervalle, de la continuation, et en l'espèce de la médiation, qui nous expliquerait l'immédiat comme un raisonnement très rapide, un raisonnement éclair, tel que ceux qu'on fait dans la pratique quotidienne et dans lequel certains intermédiaires vont simplement sauter, parce que l'esprit est habitué et va plus vite. Nous sentons bien que c'est une connaissance d'un autre ordre et qu'elle n'a d'intérêt et elle ne mérite qu'on l'approfondisse que dans la mesure où elle est d'un autre ordre et qu'elle ne diffère pas de la connaissance médiate uniquement par sa brève durée, par son caractère instantané. On peut se demander aussi, et ceci pour me permettre d'enchaîner à une nouvelle partie de cette introduction, la raison en général pour laquelle un pareil titre tel que l'immédiat est choisi, et précisément maintenant, précisément cette année. Vous vous doutez bien que le désir de reprendre contact avec l'immédiat est une des tendances profondes de l'esprit moderne. M. Jean Val a intitulé un de ses livres, il y a quelques années, plusieurs années, « Vers le concret ». On pourrait aussi bien l'appeler « Vers l'immédiat », non point que l'immédiat et le concret coïncident. Mais enfin, la même modernité qui porte la philosophie de nos jours vers le concret, la porte aussi, pour d'autres raisons, et du même ordre d'ailleurs, vers l'immédiat. Vers un contact avec l'extériorité ou l'intériorité, sans moyen à terme, dans ce qu'est là de réel. C'est là une marque de modernité. Car s'il est moderne de prendre conscience de la nécessité de la médiation, il est plus que moderne, il est modernissime, si je puis dire, de transcender cette médiation. Il est donc moderne de savoir qu'il ne faut pas sauter les moyens termes, et il est plus que moderne. C'est la mode criante, n'est-ce pas, de chaque minute, que la nécessité de transcender cette médiation elle-même. Mais d'abord, ce n'est, c'est une modernité par rapport à la modernité. Bon, peut-être toujours le moderne de quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, la vie de l'immédiat est moderne par rapport à la modernité. Alors nous parlons d'abord de la modernité sans exposant, car je dirais que la philosophie d'immédiat, comme vous allez le voir, c'est la modernité avec un exposant, la modernité à la puissance 2. Bien que cette expression ne soit pas trop bien choisie, étant donné que, comme nous aurons l'occasion de le dire et de le redire sans cesse, le contact avec l'immédiat, c'est la pensée précisément qui n'a pas d'exposant. Mais en tout cas, la philosophie qui va à l'immédiat, elle reprend contact avec quelque chose de par-dessus la tête de la médiation. Seulement, antérieurement, il était moderne de prendre conscience de la nécessaire médiation. Et ça se voit bien, par exemple, chez Platon, n'est-ce pas, quand on relit le Philebe de Platon, qui peut être, à cet égard, pour nous, un thème de méditation préliminaire, de méditation pour commencer. Vous vous rappelez, peut-être, ceux d'entre vous qui ont lu le Philebe, ou qui se rappellent les premières pages, enfin, pas tout à fait les toutes premières, du Philebe, dans lequel Platon raille les impatients, les amateurs, les improvisateurs et les hommes pressés qui, comme il le dit, font un tout de suite. Il s'agit de l'unité. C'est pas le problème de Platon qui n'est pas le nôtre et celui de l'un et du pluriel. Mais ce qui est intéressant, c'est l'opposition que Platon a établie entre ceux qui font l'un tout de suite et ceux qui font un à travers des intermédiaires. Et il se sert plusieurs fois de suite de cet adverbe adialectique, si on peut dire. Antidialectique. Eutus. Qui veut dire en grec directement et aussi immédiatement, sans intermédiaire, tout de suite, séance tenante. Donc, Platon philosophe dans ses pages contre ceux qui passent, en l'espèce notamment, directement à l'unité eutus, directement. 17a, 18a, 19a, trois fois de suite, dans des pages très voisines. C'est-à-dire encore ceux qui vont à l'un en brûlant les étapes. En escamotant les stations intermédiaires. Et comme dit Platon, ta messa. Ta messa, les choses moyennes, 17a, n'est-ce pas, c'est les moyens termes, dont les hommes impatients et pressés, dont je viens de parler, veulent faire l'économie. C'est ainsi que celui qui fait l'ange, comme ne dit pas Platon, comme nous pourrions dire à sa place, car c'est le vol de l'ange, les anges peuvent se permettre de ça. Les anges qui sont des anges peuvent se le permettre, mais les hommes qui ne sont pas des anges en sont réduits à faire les anges, faire l'ange. Donc, n'en pas être un, quand on fait l'ange, c'est qu'on n'en est pas un. C'est le cas de l'homme. Alors l'homme qui, n'ayant que des ailes qu'il s'est fabriquées lui-même, comme Icare, n'est-ce pas, ou des ailes impuissantes, s'élève à l'un directement d'une traite, à l'absolu, sans passer par les degrés requis, per gradus debitos. Il économise ses gradus debiti, ses degrés requis, sans s'astreindre au laboratoire et au purgatoire de la médiation. Eh bien, celui qui veut faire l'ange est un charlatan, tout simplement. Il veut être un ange et il n'est qu'un charlatan, c'est-à-dire un faux ange. Un charlatan est un faux ange, c'est un monsieur qui a des ailes, comme un bourgeois qui a des ailes, par exemple, figurez-vous, un monsieur obèse qui a des ailes pour faire semblant, et qui retombe pesamment au sol. Et littéralement, il est un charlatan, parce que si le charlatan est par exemple un guérisseur qui prétend guérir sans passer per gradus debitos, d'abord parce qu'il n'est pas passé par les grades, il n'a pas de grade, il n'a pas fait d'études. Et il n'a pas fait d'études d'abord, et ensuite, il ne connaît pas l'organisme. Il n'a pas étudié l'organisme. Il ne passe donc pas par le ministère des actions, des actions physico-chimiques. Il survole les chemins de la causalité. Il survole les chemins de la légalité déterministe, comme Icare, à qui ça n'a pas réussi, qui ne voulait pas passer par le labyrinthe. C'était plus long, évidemment, d'étudier le labyrinthe de Minos, de faire une carte de ce labyrinthe, d'étudier les moyens d'en sortir, en passant par tous les détours qu'il fallait, afin de trouver la porte de sortie. Alors Icare a trouvé un moyen de se passer d'études, de ne pas étudier les méandres et les tortuosités du labyrinthe, qui est de s'envoler dans la hauteur. Vous savez, comment ça a tourné? Eh bien, toutes les opérations par lesquelles l'homme veut ainsi escamoter ses degrés, quand ce ne serait que, et surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, des actions progressives que font les toxines sur l'organisme, des transformations de l'organisme, des troubles du métabolisme, etc., et des actions continues, souvent échelonnées sur de nombreux mois et de nombreuses années, celui-là se livre à la magie des actions charlatane. C'est donc un homme qui, pour reprendre des expressions que l'on trouve curieusement à la fois dans la République et dans le Philebe, est exposé à l'aventure. Il fait un, comme dit Platon, opus antukosi, c'est-à-dire d'une manière comme ça se présente, à l'aventure, et des aventures quelquefois mortelles, comme celle d'Icare qui retombe au sol, qui se brûle les ailes. Eh bien, dans cette attitude de l'homme à l'égard des Messas, pour l'instant nous n'en sommes qu'à la modernité, et non point à la modernité de la modernité, c'est-à-dire à la philosophie des moyens termes, dans cette attitude à l'égard des moyens termes, Platon, en somme, voit la différence entre la dialectique et l'héristique. Entre la dialectique véritable, scientifique, qui passe par les moyens termes, et la dialectique qu'il appelle héristique, qui est celle des amateurs, n'est-ce pas, l'art de disputer dans les controverses, de faire des tours de passe-passe, de faire le pitre, le clown, l'acrobate. Et en Grèce, il y avait beaucoup d'héristiciens qui avaient l'air de dialecticiens, et il importait de les distinguer entre eux. Par exemple, il y en a deux espèces qui sont bien connues de Platon, qui sont les grands ennemis de Platon et de Socrate, et qui ne veulent pas passer per gradus debitos. Ce sont les sophistes, et ce sont les rhéteurs. Les sophistes et les rhéteurs représentent, chacun à leur manière, les deux classes d'amateurs, de charlatans, de marchands d'orviétans, qui survolent les chemins de la causalité et de la légalité, les actions par contact, et qui s'élèvent à tire d'aile, par exemple, vers l'unité, si c'est de cela qu'il est question. Un sophiste, d'abord. Tout ceci n'est pas dans Platon, c'est pour faire comprendre. Je prends Platon comme point de départ, et les textes du Philebe pour réfléchir dessus, car ce qui nous intéresse, c'est l'immédiat, naturellement. Eh bien, un sophiste. Non pas les sophistes d'Athènes, toujours les sophistes d'Athènes auxquels Platon avait affaire, mais les sophistes de toujours, qu'est-ce que c'est sinon des prestidigitateurs qui vous mettent brusquement nez à nez avec la conclusion, sans que vous sachiez comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Tout d'un coup, vous vous trouvez face à face avec une thèse qu'il vous faut admettre, que vous vous sentez forcé d'admettre, sans savoir comment on y est parvenu. Le sophiste se garde bien de montrer le chemin, l'itinéraire par lequel vous y êtes parvenu. Le sophiste, par exemple, tire une certaine conclusion brusquement d'une thèse sans moyen terme, comme un magicien tire miraculeusement un lapin d'un chapeau, sans l'y avoir mis préalablement. Il tire un objet du gibus qui est là sur la table sans l'y avoir mis. Rien dans les mains, rien dans les poches. Il y a donc, chez le sophiste, l'idée du tour de passe-passe, de l'escamotage miraculeux, ou de la création miraculeuse, un peu comme chez le prestidigitateur. C'est une féerie, une espèce de féerie qui prétend défier les principes de continuité, de conservation et de continuation, qui, à cet égard, est de contradiction, finalement. Eh bien, ce qui est vrai des sophistes est vrai aussi des rhéteurs, ces autres charlatans, auquel Platon a affaire, et qui, à leur manière aussi, qui est tout un peu différente, nous persuadent d'une certaine thèse, sans démonstration, sans argumentation convaincante, par une espèce de thaumaturgie, par une féerie instantanée, qui est en l'espèce la flatterie, l'agrément, par le ministère de la flatterie et de l'agrément, par le miel des bonnes paroles, par le ton sur lequel elles sont dites et par quelque chose qui tient plutôt de l'ivresse que de la logique, vous vous trouvez amené à vous ranger dans le parti du rhéteur, à épouser sa cause, comme il arrive quand on va dans les réunions publiques où on est successivement ou contradictoire, dans lesquelles on est successivement d'avis de l'avis de tous ceux qui parlent et qui se contredisent les uns les autres. Donc la logique n'a rien à voir en cela. L'auditeur se découvre donc ensorcelé, en quelque sorte, sans savoir comment, par une espèce d'incantation ou d'envoûtement, c'est-à-dire sans l'intermédiaire des messins. Donc, l'orateur est à sa manière une sorte de... comme un ingénieux pickpocket qui subtilise notre portefeuille, sans que nous nous en apercevions vous-même. Et l'orateur est un charmeur, et le charmeur est un pickpocket, n'est-ce pas ? Le charmeur escamote mon consentement. Le charmeur extorque mon consentement sans que je sache de quelle manière même il l'a extorqué. Donc, que ce soit l'orateur ou que ce soit le sophiste, l'un qui est plutôt en charme par le sirop des bonnes paroles, la limonade de l'éloquence, l'autre par les sophismes, l'un et l'autre nous font passer le discontinu pour du continu. En réalité, il y a quelque chose qui manque. Ce raisonnement est un faux raisonnement. Seulement, il y a un voile ou un brouillard qui flotte sur ce hiatus et nous ne voyons pas la faille. Nous ne comprenons pas où il manque quelque chose, où il y a une lacune. Le discontinu passe donc pour du continu. Eh bien, en opposition avec ces deux genres d'impostures, qui l'une et l'autre, comme vous le voyez, sont destinées à nous se passer, à nous dispenser les moyens termes, le philosophe prescrit la visée, comme dit Platon, d'une manière très précise, d'un nombre intermédiaire, d'un nombre du multiple, d'une quantité intermédiaire. Il dit arithmostis, il dit pletosti, une quantité ou un nombre, et dans l'intervalle. Intermédiaire entre l'un et l'infini. À l'usage des amateurs pressés qui voudraient passer d'un seul coup à tire-d'aile, comme Icare, de l'infinité du multiple, de l'infinité plutôt, à l'unité, Platon prescrit la visée d'une quantité intermédiaire entre l'un et l'autre. Et donc, à la place du bon hasardeux que nous voulons faire pieds joints, il recommande une progression mesurée, une progression en mesure. Il recommande une énumération méthodique qui est d'ailleurs rendue possible par le caractère systématique de l'univers et du monde des idées, qui est une totalité articulée. Il y a des idées qui forment une totalité articulée, bref, un système, et qui rendent possible ces étapes intermédiaires. Et donc, en langage grec, qui rendent possible la dialectique. Et d'ailleurs, c'est ce que prouve un texte voisin, dans lequel Platon cite deux exemples, qui chacun à leur manière sont très caractéristiques de cette méthode dialectique. L'un, c'est la musique, et l'autre, c'est le langage et la phonétique. La science du langage et la phonétique. D'abord, le langage, parce que le langage se sert de signes, des lettres de l'alphabet, et représente une totalité analytique. Et deuxièmement, la musique, parce que la musique est la science des intervalles, qui comprennent à la fois l'unité et la pluralité. Intervalle se dit en grec « diastema ». Et diastema s'apparente à systema, n'est-ce pas, qui veut dire système. Il y a donc un système des intervalles. Et c'est-à-dire des accords complexes qui issus de l'unisson et qui aboutissent à l'harmonie consonante. Et d'ailleurs, la flûte de Pan, la syrinx, elle-même, avec ses tuyaux multiples, n'est-elle pas comme le symbole de cette division du son qui, en même temps, est à la fois divisé et qui est donc un son à la fois articulé et unique. Eh bien, vous voyez comment, par cet exemple, Platon, à l'époque où il s'intéressait justement au mélange, à l'époque où ce qui l'intéresse n'est point les choses à l'état pur, mais les dosages, d'ailleurs le Philebe est un dialogue consacré au mélange, il fait honneur à cette époque à ce que Bacon, plus tard, appellera axiomata media, les propositions intermédiaires. À la vérité, Je me sers de Platon, n'est-ce pas, pour la commodité du discours. Je prétends pas que ce que je dis soit absolument complet, ni même exact, sur Platon. Enfin, tout à fait complet, en tout cas, car, à vrai dire, Platon s'inscrit en faux dans ses textes, non pas seulement contre les opérations hâtives, bâclées, qui vont à l'unité ou à l'absolu immédiatement, mais également en faux contre les opérations très lentes. Trop lente, à la fois ceux qui dialectisent bradutéron, c'est-à-dire trop lentement, ou tacton, c'est-à-dire trop vite. C'est sur le trop vite que j'ai aussi ici attiré l'attention, mais cela s'applique également, et j'en reparlerai dans un instant, à ceux qui s'enlisent dans les moyens termes, qui les épellent un par un, comme des écoliers, et qui n'en finissent plus, et qui s'y perdent. Et d'autre part, ce qu'il dit s'applique aussi bien à ceux qui descendent de l'absolu vers le relatif, de l'un vers l'infini ou le multiple, qu'à ceux qui montent du multiple vers l'un, n'est-ce pas ? Je l'ai surtout ici appliqué, également pour la commodité de mon propos, à l'anagogie, c'est-à-dire à l'élan de l'esprit, au vol de l'esprit vers la hauteur. Mais pour ceux qui descendent et qui déduisent et qui, à partir de l'un, veulent rejoindre le monde sensible, on pourrait dire les mêmes choses. Là aussi, quand on descend, il faut emprunter les escaliers. Parce que quand on se jette d'en haut, par la fenêtre, on risque de s'écraser au sol. Donc, les escaliers sont faits pour ça. Et les paliers également. Descendez en vol plané ou prenez un parachute pour éviter de vous écraser au sol. En tout cas, nous retenons, puisque ce n'est pas tellement Platon qui nous intéresse en ce moment, que l'immédiat et le média, disons que dans les deux cas, Platon est opposé à toute psychagogie, n'est-ce pas ? Il dresse contre la psychagogie, l'anagogie ou l'agogie tout court, la conduction dialectique de l'esprit vers la vérité, et non point la psychagogie des thaumaturges, des imposteurs, des charlatans, qui eux persuadent l'âme par imposture et par des tours de passe-passe. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est cette anagogie opposée à toute psychagogie qui représente le point de vue de la science, de la probité et de la vérité. D'une autre manière, dans un autre langage, c'est ce que voulait dire et ce que représentaient également les hypothèses de la République de Platon, du sixième livre. Les hypothèses qui sont, dit-il, dans un texte célèbre, 511b, epibaseis kai ormai, c'est-à-dire des degrés et des échelons pour monter et pour aller vers l'arché, vers le principe, un hypothétique, qui est l'idée du bien. Et qui nous oblige à passer également par des intermédiaires. Et dans un autre langage également, mais très voisin de la République, parlant d'une autre dialectique qui est celle de la beauté et celle de l'amour, c'est ce que dans le banquet, la prophétesse Diotime, en 211c, appelle Epanabasmoi, dans lequel vous retrouvez la même racine que dans Epivaseis, c'est-à-dire les degrés d'une échelle. Il faut aller de 1 à 2 et de 2 à tous, et pour monter à la beauté en soi, il faut partir des corps, aller des corps aux occupations, aux belles occupations, des belles occupations aux belles sciences, et des belles sciences à la science suprême, et enfin aller à la beauté en soi. Tout cela par degrés, et sans brûler les étapes, avec des nuances et d'ailleurs une réserve que je dirai un jour lorsque j'en aurai besoin. Et ces échelons intermédiaires peuvent aussi avoir un caractère presque mystique et initiatique, car l'initiation également se fait par degrés. C'est ce qu'on voit bien dans des textes de Plotin, qui d'un côté s'apparentent à ceux de Platon et exigent de nous impose les moyens termes, les degrés intermédiaires de l'échelle, mais aussi leur donnent parfois un sens initiatique. Par exemple, ce que Plotin appelle des anabasmoi, qui sont comme des purifications. Les purifications nécessaires pour aller à Dieu. On ne se présente pas à Dieu immédiatement, mais de même que pour aller voir un grand roi, et le roi des rois a fortiori, comme il dirait dans son langage, on met ses plus beaux habits, on fait une toilette prolongée et des ablutions et il y a des degrés intermédiaires et des chambres et des appartements à traverser avant d'aller au grand roi qui est tout au fond du palais, n'est-ce pas, dans un endroit tout à fait à part. De la même manière pour l'idée du bien, dans le livre Le Traité du Beau 1-6, d'esprit platonicien mais subtilement métaplatonicien, déjà il parle des épipatrailles. des épipatrailles, c'est-à-dire de nouveau des tremplins pour monter. Et pourtant, Plotin avait connu, paraît-il, des extases, c'est-à-dire des mises en présence de Dieu, des mises en présence immédiates et directes. Eh bien, pourtant, ce philosophe des extases, d'ailleurs, il n'en avait pas eu beaucoup dans sa vie, savait le prix des intermédiaires et des propédeutiques et des études préparatoires. Des études préparatoires pour s'élever jusqu'à l'absolu. C'est que, même pour un esprit religieux, ou comme le sien, la révélation de la vérité complète n'est pas immédiate, ne peut pas se faire en une fois. Ce que dans les mystères, on appelle l'épopthéia, l'épopsie, qui est l'accomplissement, la vue accomplie. La vue contemplative de la divinité exige une accoutumance, exige qu'on s'habitue, qu'on aille de l'exotérique à l'ésotérique, du sens apparent au sens caché. Et on ne devient pas un téleste, on appelait téleste les initiés parfaits du dernier degré, on ne devient pas téleste du premier coup et en une fois, et dès le premier jour. Il faut avoir également fait de fortes études. Donc, comme vous le voyez, ce qu'il y a de commun à tous ces textes que je cite un peu pêle-mêle, dans leur ressemblance, c'est une défiance commune envers le purisme immaculé, vers l'angélisme, si vous préférez. Celui qui fait l'ange et celui qui veut se passer d'escalier, à cette ambition, à cette prétention mortelle, ces philosophes partisans de la vérité opposent l'obligation de traverser toutes les étapes sans en manquer. Et donc une revendication de continuité. Toute discontinuité, à cet égard, est un hiatus suspect. Et nous montrerons en son temps que c'est peut-être parce qu'une discontinuité est peut-être un néant, déjà. Est une espèce de petit néant, si on peut ainsi s'exprimer. Toute discontinuité est un néant, et c'est pourquoi il s'agit de rétablir la continuité scalaire des degrés successifs, et des degrés ascendants. Donc, la vérité est médiatisée, comme vous le voyez, par des moyens. Eh bien, c'est là donc la revendication d'une science sérieuse, amie de la vérité, déjà moderne, et qui refuse d'ingurgiter globalement d'un seul coup tous les intermédiaires, gloutonnement, et qui fait exception au contraire des intermédiaires. De même qu'un travail réaliste et prosaïque fait exception des obstacles, des résistances de la matière et des étapes à traverser. Eh bien, au XIXe siècle, la modernité, comme revendication des intermédiaires, et comme défiance envers l'immédiat, comme envers tout ce qui est spontané, primitif, charlatan et faussement angélique, prend une autre forme, une forme temporelle. Les messas, les moyens termes dont parlait Platon dans le Philebe, deviennent temporels, c'est-à-dire qu'ils deviennent, pour les appeler par leur nom, des moments. Le moyen devient un moment. Un meson, comme nous le verrons, est toujours à quelques degrés un moment, n'est-ce pas? Puisque, après tout, la mineure d'un syllogisme est un moment du raisonnement. Mentalement et psychologiquement, la mineure représente un moment, une étape dans le raisonnement. Mais vice-versa, un moment n'est pas nécessairement un moyen au sens logique de ce mot. Donc il s'agit, cette fois, non pas de moyens purs et simples, mais de moments successifs du devenir. Cette succession temporelle, remarquez-le, est appliquée déjà dans le discours, dans le raisonnement, dans l'approfondissement dialectique, dans le travail et l'effort de la pensée, car tout approfondissement dialectique prend du temps. Mais pour un logicien, ce temps est un épiphénomène psychologique, accidentel, n'est-ce pas ? Ça n'intéresse pas l'amant de la vérité, celui qui veut la vérité, n'est-ce pas ? Celui qui veut la vérité d'abord, et qui est braqué uniquement sur la fin qu'il vise, considère le temps consacré à l'approfondissement, le temps de l'approfondissement, comme du temps perdu, pas comme du temps sans intérêt. Donc, ce temps qui, pour beaucoup de philosophes, est l'événement essentiel, était pour ces métaphysiciens, simplement un temps perdu, un temps épiphénoménique. Et en fait, on voyait bien que les Grecs, qui avaient un sentiment très vif du discours, et même du temps que le discours nous fait perdre, n'est-ce pas, n'avaient pas la conscience de la temporalité comme telle, comme nous disons aujourd'hui.
Il n'est, le grec, même là où il nous impose l'obligation des étapes, et des étapes intermédiaires, n'a pas la conscience du temps comme tel, c'est-à-dire du temps indépendamment de la pensée qui le remplit. Car la pensée prend du temps, mais c'est autre chose que de dire la pensée prend du temps et de prendre conscience de ce temps que prend la pensée, de ce temps que dure la pensée. Et qui n'est pas simplement un temps perdu qui s'étale sur un quart d'heure d'horloge, mais c'est un temps qui a une existence positive. Eh bien, pour les Grecs, ce temps n'était qu'une détente de l'éternité, n'était qu'un relâchement de l'intemporel, une intemporalité diluée, délayée, comme une sauce qu'on allonge, mais qui en lui-même n'avait pas de caractère affirmatif. La dianoïa, ce qu'on appelle la dianoïa, qui est une noésis à travers, si on peut dire, comme l'indique le préverbe dia, n'est-ce pas ? Dianoëine. Noésis, la noèse, c'est la pensée intuitive qui comprend, par exemple, contemplativement l'essence. Et la dianoïa, comme l'indique l'allure discursive, grammaticalement, de ce mot, est une noésis qui traverse des intermédiaires, donc qui est une noésis diluée, une intuition discursivement diluée. Eh bien, le temporalisme et l'historisme, au XIXe siècle, tournent cette fois son attention vers le temps employé à traverser les intermédiaires. Non pas simplement sur les intermédiaires que, en fait, on est obligé de traverser parce qu'on ne peut pas avoir la vérité d'un seul coup, parce qu'il ne faut pas être trop glouton, comme un enfant qui se jette directement sur le potage et les confitures, au risque de se faire une indigestion, et l'obligation d'aller par degrés est simplement une obligation de prudence. Le temporalisme, lui, prend conscience de ce temps lui-même, du temps que dure le raisonnement. Et par conséquent, il prend conscience de quelque chose d'abstrait, d'indéfinissable, d'impalpable, d'insaisissable, d'impondérable, ce je ne sais quoi, enfin, que présuppose le mouvement et que présuppose la pensée elle-même. En effet, au-delà de l'espace parcouru, au-delà du mouvement par lequel je le parcours, au-delà du mouvement par lequel je parcours le trajet dans cet espace, il y a donc le temps. Donc, au-delà de l'espace qu'évidemment les Grecs ont connu, au-delà du mouvement qui le parcourt, il y a le temps que dure ce mouvement, et dont les Grecs n'ont pas eu une très claire conscience, puisqu'ils disaient, par la bouche d'Aristote, que le temps est simplement le nombre de ce mouvement, arithmos kinesios. Il y a donc un temps qui est autre chose à la fois que l'espace parcouru et autre chose que le mouvement, et qui est au-delà des objets interposés, au-delà des stations intermédiaires. Le moment est donc à la fois autre chose que l'objet interposé entre moi et le réel, et autre chose également que les stations intermédiaires que parcourt l'approfondissement dialectique, car les moments eux-mêmes sont organisés dans le temps, se succèdent dans le temps. Donc, les messa temporels, les moyens temporels que cette fois la science et la philosophie énoncent l'obligation et qu'elle appelle des moments, ne sont plus simplement des concepts intermédiaires, ne sont plus simplement des moyens termes réquisitionnés pour mettre en relation, pour relationner un sujet et un attribut dont le rapport n'est pas évident au premier coup d'œil. Probablement parce que j'ai l'esprit lent et j'ai l'esprit lourd. Je ne vois pas très bien, par exemple, le rapport qu'il y a entre moi et la mort, où je ne veux pas le voir, n'est-ce pas ? Pour ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas envie de voir ce rapport, qui sont trop lents et trop lourds, alors on propose un concept intermédiaire, qui est le concept d'homme. Les hommes sont mortels, d'accord. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes un homme, vous-même, donc vous êtes mortel. J'en suis un, donc je suis mortel. Ce que je n'ai pas voulu voir du premier coup, pour des raisons variées, et peut-être simplement parce que je n'ai pas l'esprit vif, je le verrai donc à travers un concept intermédiaire. Et cette fois, il ne s'agit pas du tout de cela. Un moment n'est pas comme le concept homme que j'invoque, ou comme je le disais il y a un instant, que je réquisitionne pour mettre en relation. C'est une phase, c'est une étape, c'est une succession d'étapes obligatoirement successives. Dans un développement incompressible, dans un développement qu'on ne peut pas économiser, qu'on ne peut pas comprimer, et qui m'oblige à traverser ces intermédiaires comme il fallait que Bergson attende que le sucre fonde. dans son verre de professeur, comme nous le répétons souvent après lui, n'est-ce pas ? Il faut attendre que le sucre fonde rapidement, lentement, ça dépend de la nature de l'eau, de la pression atmosphérique, de tas de choses que j'ignore, de la température, le point de fusion peut varier, mais quelle que soit la température, quel que soit l'état hygrométrique, barométrique, la nature du sucre, la nature de l'eau, la grandeur du verre, la quantité, etc., 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 quelles que soient les conditions et les facteurs en présence, il y a quelque chose qui est qu'un homme ne peut pas économiser à moins de faire l'ange, c'est que la fusion prenne un certain temps, même un temps éclair, même une seconde, n'est-ce pas ? Mais pour un métaphysicien, une seconde est aussi longue qu'un mois, n'est-ce pas ? C'est donc une durée. Il y a donc là quelque chose qui est incompressible, qui tient à la nature métaphysique des choses, et qui, comme vous le voyez, ne ressemble en rien à un raisonnement, ni à un argument, comme tout à l'heure le Mason. Le temps ne veut rien prouver, contrairement au syllogisme des hommes. Le syllogisme veut prouver, et recourt à des moyens termes pour cela. Mais le temps ne veut pas prouver, simplement il met au jour peu à peu. Il met au jour, peu à peu, à longueur de temps, certaines structures que nous ne savons pouvoir être complètes qu'au bout d'un certain temps. Donc, le modèle, de cette fois, de cette nouvelle médiation, qui est historique, qui est moins bien articulée, qui est articulée d'une manière plus nébuleuse, plus brouillardeuse, puisqu'il s'agit de moments, n'est-ce pas, moins bien séparés les uns des autres que les moyens termes, qui souvent se confondent dans le temps, comme les phases de l'évolution biologique, dont les dates elles-mêmes sont plus incertaines, plus indéterminées. Les jeunes gens ont leur puberté à des âges différents, selon les races, selon les climats, selon leur santé, bonne ou mauvaise. Bref, le moment, pour prendre ce moment important, de l'évolution du jeune homme vers l'adulte, le moment privilégié qu'on appelle la puberté n'est pas une date qui sonne comme la cloche des repas, n'est-ce pas, d'une manière uniforme. Il s'agit donc, cette fois, d'autre chose, qui est la nature même de la temporalité, qui nous impose l'évidence des gradus debiti, comme nous disions tout à l'heure. La continuité d'un progrès que nous étendons du processus biologique à l'histoire, que nous étendons d'une manière analogique d'ailleurs, et rétrospective. Cette fois, inutile d'aller chercher nous-mêmes, par artifice, le moyen terme, qui est nécessaire pour raisonner, comme par exemple l'homme auquel j'avais tout à l'heure recours pour trouver le rapport qu'il y avait entre Pierre, que voici, et la mortalité des hommes en général. J'avais recours à un concept que j'allais chercher moi-même. Cette fois, c'est la nature qui nous les présente. Les moments se développent d'eux-mêmes dans le temps. Nous savons qu'un organisme ne sera complet, après l'embryogenèse, et après la croissance, et après la puberté, il ne sera complet qu'au stade définitif qu'on appelle l'adulte. L'adulte qui, après coup, apparaîtra comme ayant été une possibilité aux stades antérieurs. Mais d'ailleurs, nous verrons aussi par la suite que, par le fait même que l'organisme est à tout moment viable, et total, le retour à l'immédiat, nous allons le voir, deviendra possible à n'importe quel moment aussi, au cours de ce devenir. Telles sont les deux formes que peuvent revêtir, dans la première modernité, la revendication des moyens termes, du média. Qu'il s'agisse des moyens termes dans le raisonnement, ou qu'il s'agisse dans la dialectique, ou qu'il s'agisse des moments dans le devenir et dans l'histoire. Mais remarquez que cette philosophie de la médiation préparait une philosophie plus que moderne, celle que j'annonçais en commençant, et qui est un retour à l'immédiat. Et cela de deux manières inverses. De deux manières inverses, la philosophie de la médiation préparait le retour à l'immédiat. D'abord, la nécessité de la médiation, elle-même, chez les dialecticiens, dans l'éternitarisme grec, dans la philosophie de l'éternité, chez les Grecs, apparaît comme une malédiction, apparaît souvent comme un mal nécessaire, comme un moindre mal rendu nécessaire par la chute de l'homme dans la temporalité, par la perte des ailes. L'homme est tombé loin de la vérité immédiate. La médiation est le prix dont il lui faut racheter cet éloignement, cette chute loin de l'immédiateté. Donc, l'âme qui s'est brûlée les ailes, comme Icare, est astreinte aux travaux forcés de la médiation. Donc, elle est astreinte à la pénibilité de la peine, du diaponein, comme dit Platon encore, d'une expression discursive, de même que à Adam, chassé du jardin de félicité, est astreint à gratter le sol pour lui arracher laborieusement sa maigre pitance. Il ne jouit plus des fruits du jardin de félicité, mais il est obligé de les arracher au sol par son travail. De même encore que la femme est astreinte au travail douloureux de la parturition. Eh bien, dans tous ces cas, l'homme est victime d'une fatalité. Rien n'aboutira plus instantanément, sans transpiration et sans effort. Donc, dans ces métaphysiques, on peut dire que l'immédiateté serait en droit l'idéal duquel l'homme est déchu, et dont le discours est la privation. C'est ainsi que, de plus en plus, l'état de l'homme au niveau du discours deviendra un état d'exil dont il s'agit de fuir. Et l'immédiateté deviendra ce que nous trouverons au but, après le détour et le retard de la médiation. Mais d'autre part, voici une autre manière qu'a l'esprit moderne de retrouver l'immédiat et de le retrouver par-dessus la tête de la médiation. Sur tous ces points, on peut bien dire que Bergson est d'accord avec Plotin, tout au moins sur ce point, que la dianoïa et le logismos, la raison et la pensée discursive sont des détours. Mais ce sont des détours pour des raisons inverses. Chez Plotin, la pensée discursive est un détour parce qu'elle est une décompression et une détente de l'éternité. Et chez Bergson, la pensée discursive est un détour parce qu'elle n'est pas le vrai temps, parce qu'elle est une pseudo-durée, parce qu'elle n'est pas le véritable devenir. Donc, pour des raisons tout à fait différentes l'une de l'autre. Pour Bergson, on peut revenir à l'immédiat sans quitter le temps. On peut revenir à l'immédiat à l'intérieur même de la temporalité. Parce que d'abord, il y a une intuition immédiate du temps. Parce qu'il y a une intuition immédiate du devenir. Tout à l'heure, nous disions, le temps est une espèce de médiation par laquelle l'homme tourne autour de l'absolu au lieu de s'installer en lui. Mais c'est à la condition que le temps lui-même soit considéré comme ce détour, et que l'éternité, ou la vérité instantanée et intemporelle, soit considérée comme accessible. Tout change si on considère que l'homme dans le temps est un homme plongé dans son milieu naturel. Alors, pour trouver l'immédiat, il n'est pas obligé d'attendre la fin des temps, il n'est pas obligé d'attendre la résorption du temps, mais il peut trouver l'immédiat en pleine temporalité. Donc, l'essence de l'immédiateté bergsonienne, c'est de nous promettre l'immédiateté à l'intérieur même de la durée, dans le temps lui-même, et d'abord, comme je viens de le dire, parce que le temps lui-même est l'objet d'une intuition, et d'une intuition immédiate. Cette fois, comme vous le voyez, le temps n'est plus un retard négatif qui nous sépare de l'absolu, et par conséquent un lieu d'exil. Le temps n'est plus la marge qui bâille entre le fait et l'idéal, le décalage qui existe entre l'état de fait et l'état de droit, le décalage à combler, la marge à dépasser, comme dans la philosophie d'Aristote, dans laquelle le mouvement sert à combler la marge, la déficience des objets qui ne sont pas entièrement en acte. Le temps n'est rien de tout cela, mais il est au contraire le milieu absolument positif et absolument naturel de l'être humain. L'être humain est entièrement temporel, et le temps est sa patrie, et plus que sa patrie. Le temps est son essence même, le temps est sa seule manière d'être. La seule manière d'être qu'a l'être d'être, c'est de devenir. La seule manière d'être qu'il est, c'est de ne pas être, ou à la fois d'être et de n'être pas. Le devenir est ma seule manière d'être. Or, vous le savez, quand un grec disait devenir, il avait présent à l'esprit le contraire, ne pas être. Dignestai, c'est le contraire de Einai. Devenir, c'est ne pas être. Aujourd'hui, quand nous disons devenir, nous ne pensons pas au non-être, nous pensons à quelque chose qui n'est ni de l'être, ni du non-être, en vérité. Eh bien, l'homme bergsonien du XXe siècle, le devenir est donc la seule manière manière d'être, de l'être, et par conséquent, il est positivité absolue. Il est le style positif de notre exister, notre manière d'exister, et non point un décalage. Et par conséquent, il est une donnée absolument affirmative que l'homme peut atteindre à tout moment, sans attendre la mort, n'est-ce pas ? Si le devenir est non-être, et que l'homme est séparé de l'être par cette immense boucle qu'il lui faut boucler, par cet immense circuit qu'il lui faut accomplir, s'il est un exilé en voyage, un pèlerin dans la vallée, dans la vallée du non-être, avec son bâton et sa gypsière, eh bien il lui faut atteindre la fin de sa vie pour trouver l'absolu. Et au contraire, si l'homme dans le temps est dans son milieu naturel, en pleine positivité, l'immédiat est à tout moment à sa portée. L'immédiat est directement à sa portée. Donc, l'homme temporel n'est plus exilé dans l'absence de lui-même. Il n'est plus exilé dans l'alibi, c'est-à-dire dans l'ailleurs, dans l'aliénation à soi, et par exemple, dans l'extériorité mutuelle des moments du temps, l'un par rapport à l'autre, comme quelqu'un qui vit uniquement dans l'avenir, non point dans un avenir qui gonfle le présent, comme l'homme temporel de Bergson, mais dans l'avenir eschatologique, l'avenir surnaturel de l'homme néoplatonicien, qui pense à sa chère patrie, à sa patrie surnaturelle, à la Jérusalem céleste, à la cité de Dieu, à une ville sainte dont il n'est pas le citoyen, et qu'il lui faut attendre le jour de la mort pour trouver. Fuyons de notre chère patrie, dit Plotin, mais cette patrie chère, fidèle patrice, c'est la patrie de l'au-delà. Donc, l'homme séparé de cet avenir par la chaîne du temps, par l'enchaînement des moments du temps, est en état d'absence. Il est absent de son essence véritable. Au contraire, dans la mesure où il est dans le temps, dans son élément naturel, on peut dire que cet état d'absence et d'extériorité des moments partes extra partes est à cesser. L'attente impatiente de la fin est convertie en une présence à soi continuelle, une contemporanéité de soi. L'homme, au lieu de vivre dans l'expectative indéfinie du lointain avenir, d'un avenir médiatisé, est au contraire implanté dans le présent et implanté dans la réalité elle-même, en pleine réalité. Voilà donc de quelle manière, comme vous le voyez, une philosophie de la médiation peut préparer un retour à l'immédiateté. D'une part, dans la mesure où la médiation elle-même est considérée par les philosophes éternitaires comme la préparation de ce retour. D'autre part, lorsque cette médiation est le temps, et que l'homme implanté et enraciné dans le temps, est par là même en contact immédiat avec la vérité et avec les données immédiates de cette vérité, puisqu'il est en plein présent. Ceci nous explique de quelle manière aussi le retour à l'immédiat, le retour de beaucoup de philosophies contemporaines à l'immédiat, que nous appelions modernissime, accompli d'une manière très frappante, ou illustre, si vous préférez, d'une manière frappante, ce que Pascal eût appelé le renversement du pour au contre, ou si vous préférez, en l'espèce, un renversement du contre au pour. Le retour à l'immédiat est un véritable renversement, en ce sens que l'immédiat auquel l'homme revient, lorsqu'il est passé par le purgatoire de la médiation, n'est nullement l'immédiat dont il est parti dans son enfance. Ce n'est pas l'immédiat de son enfance. L'immédiat auquel nous revenons n'est pas celui que nous avons quitté. Nous sommes comme l'enfant prodigue qui recommence une vie nouvelle, ayant traversé le circuit des épreuves, et aussi des frasques, et aussi des débauches, mais de telle manière que celui qui retrouve le commencement ne retrouve pas le commencement du commencement. Ce qu'il retrouve est un commencement, est un recommencement, ce qui est bien différent. C'est donc l'aurore d'une vie nouvelle. Donc l'immédiateté qui est un point d'arrivée ne ressemble en rien à l'immédiateté qui était point de départ. L'immédiat a parte et poste ne coïncide pas avec l'immédiat a parte et hanté. L'oméga ne consiste pas à rejoindre l'alpha purement et simplement, sinon ce ne serait pas la peine d'avoir fait un si grand circuit, ce ne serait pas la peine d'avoir accompli un cycle tellement inutile. Eh bien, la prochaine fois, nous étudierons la différence entre ces deux immédiatetés, en même temps que la différence entre les deux spontanéités. Et nous pourrons enfin aborder le problème de l'immédiat en lui-même.